L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux. Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc et David. Bonjour,
bonjour
à vous.
Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui. Et celle qui est avec nous aujourd'hui, notre journaliste à la mode. Bonjour Yvan Jacob.
Bonjour tout le monde.
Et je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui.
J'adore bien habillé, moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde.
Ah oui, Gucci, Fendi, Prada, Valentino, Armani, vous avez tout entendu. C'est chic. Oui, comme Lady Gaga ont réuni des reines du shopping, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par une fashion victime, je parlais pas de vous Clémentine, du 14e siècle, qui est une reine, une vraie, une anglaise, Isabelle de France, qui s'est parée de ses plus beaux atours et qui avait aussi de nombreux atouts dans sa manche, brodés forcément, vous verrez. Puis, elle n'était pas reine, mais première dame, Eva Perón. Connue tout à la fois pour sa défense des esquemisados, ses sans-chemises des milieux ouvriers populaires argentins, que pour ses looks glamour, que certains évidemment lui ont reproché. Et après les mortes, la vivante, c'est vous Jean-Luc qui allez dresser vers 17h30 le portrait de notre troisième reine du jour, reine du shopping. Elle les anime, elle en est aussi une forcément.
Oui, en quelques années, elle est devenue une incontournable de la mode à la télé. Christina Cordula et son...
Ma chérie, Rani Pike !
Qui est désormais sa marque de fabrique. Je voudrais son portrait tout à l'heure, sans chichi.
Eux aussi, ils sont magnifiques. Enfin, ils sont devenus des incontournables de notre émission. En tout cas, c'est très bien comme ça. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, Clémentine, de qui allez-vous nous parler cet après-midi ?
Je vais vous parler d'une espèce d'homme qui était autrefois aussi, en quelque sorte, des rois du shopping. Mais eux, ce qu'ils cherchaient à choper, c'était des jeunes filles à marier en fonction de leur dot et de leur revenu. On les appelait des coureurs de dot. Et évidemment, ça ne donnait pas toujours des mariages très heureux. C'est ce que je vous raconter un célèbre mariage raté avec un grand coureur de dot. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
Ah oui, oui. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Oui. C'est David Castro-Lopez.
Oui, aujourd'hui c'est une obsession un peu ancienne, mais qui a été très intense dans mon adolescence. C'est les consoles de jeux.
Ah oui, vous avez beaucoup pratiqué.
J'ai beaucoup, puis j'ai brusquement arrêté. Maintenant, j'ai réessayé dernièrement et dépassé.
Oui.
Je suis dépassé.
Ça ne fait plus le même effet.
Plus du tout. Puis j'ai perdu en compétences aussi.
Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais ailleurs, quelle époque, mais ailleurs, quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte à la belle époque. On parle mode avec vous, Yvan Jacob. Et d'une mode où certains y ont laissé des plumes.
Eh oui, vous savez, on dit aujourd'hui que la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Alors, personne n'a vraiment les chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, on n'a pas attendu le 20e siècle ou le 21e siècle pour que ce soit une industrie très polluante et très nocive pour la biodiversité. Ça a commencé déjà au 19e siècle.
Et quand on arrachait les plumes des autruches, c'est ça,
exactement,
par exemple.
Exactement, ah oui. Tous les ans.
Mes aïeux, quelle époque ! Ça sera tout à l'heure vers 17h40.
Vous avez tout dit, Stéphane ?
Oui, moi, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec mon premier portrait.
Oh, bon, non, mais comme vous allez vite en besogne. Ce serait passé sous silence ce moment où la France retient son souffle. Est-ce que Stéphane Bern est bien cet homme érudit qui connaît tous les noms de rois et reines de tous les pays européens depuis 2000 ans? Ou est-ce qu'il est aussi fort en histoire qu'Ivan Jacob,
hein? Ah bah elle est douée.
Bah je suis douée, merci.
Monsieur Sol.
Moi je peux
jouer. Vous avez vexé deux personnes au lieu d'une.
Il faut que je dise du mal de David et Clémentine tout de suite.
Vous créez le suspense, c'est pas mal.
Tout à l'heure.
En tout cas, pour l'heure, je vous raconte notre première dame du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
C'est une figure moins connue du Moyen-Âge, éclipsée par ses frères, les rois maudits, rendue célèbre par la littérature et par le cinéma. Pourtant, elle est un personnage fascinant, à la vie tout aussi romanesque, mêlée de luxe, de belles étoffes et d'affrontements politiques. Je vous raconte maintenant une reine consort et reine du shopping aussi, l'anglaise Isabelle de France. Il fait frais en ce 25 janvier 1308 devant la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Les cloches qui carillonnent annoncent un heureux événement. Sur le parvis de l'église se presse une foule élégante et bigarrée, mêlant aristocrates anglais et français venus assister aux noces de deux personnalités d'importance. Édouard II, roi d'Angleterre depuis quelques mois, épouse Isabelle de France, fille du puissant roi de France Philippe le Bel. La princesse, que les chroniqueurs comparent à une rose, est majestueuse, dans une robe bleue et or surmontée d'un manteau rouge. Sur sa tête, on a posé une couronne dorée garnie de pierres précieuses. Il n'en fallait pas moins pour la jeune fille de 13 ans habituée, depuis sa tendre enfance, au luxe le plus absolu. Isabelle de France naît à Paris dans les dernières années du XIIIe siècle, probablement durant l'hiver 1295-96. Sixième enfant du couple royal, elle est la seule fille de la fratrie à survivre aux premières années de l'enfance. De sa jeunesse, on sait peu de choses, sinon qu'elle perd sa mère, Jeanne de Navarre, vers l'âge de 9 ans, et qu'elle est choyée par son père et ses trois frères, les futurs rois maudits, formant autour d'elle une famille très unie. Fait assez rare pour être souligné, Philippe le Bel n'a ni maîtresse, ni enfant illégitime, et refuse même de reprendre une épouse à la mort de sa femme. Isabelle passe son enfance au palais de la Cité, au cœur de Paris. Elle y reçoit une éducation soignée, apprend à lire et à écrire. On la sait passionnée par les romans de chevalerie et le cycle arthurien, plus que par les romans d'amour. Entourée de garçons, elle partage avec eux le goût de la chasse. Toute petite déjà, Isabelle se sait destinée à un roi. La seule fille du souverain français ne saurait épouser un simple comte, ni même un duc. Au début du XIVe siècle, le royaume de France est le plus puissant d'Occident. Très tôt, Isabelle a conscience de la supériorité que lui confère son rang. Arrière petite fille de Saint-Louis, elle tire une fierté certaine de sa glorieuse ascendance et mène un train de vie fastueux qui reflète sa position dans la société. Cela se voit dans ses vêtements. Au Moyen-Âge, l'habit est comme une carte d'identité qui révèle immédiatement le rang de celui ou de celle qui le porte. Isabelle se doit d'afficher sa magnificence et son goût semble la porter à le faire plus qu'aucune autre. Pour son mariage, conclu au terme d'une négociation diplomatique entre deux nations ennemies, mais aux intérêts mêlés, Isabelle apparaît donc dans une toilette magnifique. Son père lui fait aussi cadeau d'un trousseau somptueux qui comprend entre autres sept couronnes, trois coffres de rubis et d'émeraudes et des broches figurant des fleurs de lys tout en or. Ces bijoux viennent enrichir des robes aux étoffes précieuses, des velours et des soies venues d'Orient, des fourrures d'hermine et de verre, les plus chères, et des chapeaux luxueux. Les époux sont jeunes, beaux, le mariage semble prometteur, et pourtant, à peine ont-ils accosté à Douvres, qu'Isabelle voit son mari se jeter dans les bras de son favori, Pierre Gaveston, un jeune Béarnais avec qui il entretient depuis des années une relation fusionnelle. Pendant le banquet qui suit le couronnement, Isabelle est reléguée au bout de la table, tandis que le roi s'installe au centre avec son favori. Plusieurs nobles indignés quittent la fête. Bon an, mal an, Isabelle s'installe en Angleterre. Grâce à la rente annuelle considérable négociée par son père auprès de son mari, la jeune femme peut maintenir un somptueux train de vie. Sa maison emploie à plein temps un tailleur, Jean de la Falaise, à la tête d'une équipe de 60 couturières chargée de confectionner ses robes. Pour la chandeleur de l'an 1312, Jean agrémente la robe d'Isabelle de 40 nœuds d'or. Le tailleur, indispensable à la souveraine, la suit partout dans ses déplacements, comme la caravane de chariots transportant ses vêtements et sa vaisselle d'or et d'argent. Certains moralistes goûtent peu cet affichage de luxe et lui conseillent de se vêtir plus sobrement. Mais la reine en a cure. C'est elle qui a introduit la mode parisienne à la cour anglaise, avec ses longues robes ceinturées sur lesquelles elle porte un surcot ajusté bordé de fourrure. Sa chevelure blonde se devine sous un voile transparent. Devenue adulte, Isabelle reste toujours décrite comme splendide et la plus belle de toutes les femmes. Après l'exécution de Gaveston, le favori de son mari, la situation de son ménage s'améliore. Cette même année 1312, le couple a un fils, le futur Édouard III. Isabelle a enfin l'attention du roi. Excellente diplomate, la reine s'attache à apaiser les tensions politiques qui agitent le royaume. Elle supplie le roi de pardonner à ses ennemis et demande aux ennemis de calmer leurs ardeurs. Isabelle bénéficie d'une autre oreille attentive, celle du pape, alors installée à Avignon et très proche de la couronne française. Pourtant, bien vite, Édouard se trouve un nouveau favori, Hugh de Spencer, qui en peu de temps acquiert un pouvoir immense auprès de lui. Tyrannique,
Despenser n'hésite pas à rançonner les femmes de l'aristocratie et menace même, dit la rumeur, de s'en prendre à la reine. Mais Isabelle n'est plus la jeune adolescente qui avait supporté des humiliations au début de son mariage. Envoyée en France pour traiter la paix auprès de son frère Charles IV, la reine d'Angleterre, au caractère déterminé, prépare une âpre vengeance. Alors que son épouse s'attarde outre-Manche, Édouard s'impatiente. Ses courriers adressés au roi de France en témoignent, mais ni le frère d'Isabelle ni le pape ne sont pressés de se mêler à la dispute du couple. La reine d'Angleterre est accompagnée de son fils Édouard, un jeune adolescent qui ne semble pas vouloir quitter sa mère pour retrouver son pays. La France voit d'un bon œil que la femme et l'héritier du trône d'Angleterre contestent son autorité. Pourtant, Isabelle manque à ses devoirs d'épouse et elle le sait. Alors, toute vêtue de noir et portant une guimpe, la coiffe des veuves, la reine déclare « Je crois qu'un mariage est une union entre un homme et une femme, mais quelqu'un s'est introduit entre mon mari et moi qui est en train d'essayer de rompre ce lien. » D'accusée, elle devient accusatrice et s'attire les sympathies des ennemis du roi, commencé par les Anglais que son favori a contraint à l'exil. Le baron Roger Mortimer est de ceux-là. Tout au long de l'année 1326, Isabelle, qui a désormais une trentaine d'années, prépare avec celui qui est sans doute aussi son amant un plan pour renverser son mari. Avec le soutien d'un comte, ils lèvent une armée de mercenaires et font cap sur l'Angleterre. Depuis Philippe Auguste, personne n'avait osé partir à la conquête de l'île. Isabelle sera la dernière à réussir cet exploit. Sur place, les soutiens ne tardent pas à les rejoindre. Isolé, le roi doit fuir avec son favori, mais les deux hommes sont vite retrouvés. Le premier est emprisonné, le second exécuté dans des conditions abominables. Isabelle de France a pris sa revanche, mais pour une femme au Moyen Âge, difficile de conserver le pouvoir. Quelques années plus tard, son fils Édouard III fait arrêter Mortimer et évince sa mère pour régner à son tour. Écartée du trône, Isabelle garde un rôle de conseil auprès du roi jusqu'à sa mort en 1358. Vêtue d'une robe très simple, l'ancienne élégante avait couché sur son testament une dernière volonté. Que l'on couvre sa dépouille de la splendide robe bleue et or qu'elle portait le jour de son mariage, 50 ans plus tôt.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Isabelle de France avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une essayiste qui la connaît bien. Bonjour Gaëlle Odéon.
Bonjour Stéphane.
Déjà, un peu de contexte pour nos auditeurs. Le royaume de France est le plus puissant d'Occident en ce début de XIVe siècle. Isabelle de France épouse le roi d'Angleterre. L'objectif premier, on le suppose, est d'enterrer la hache de guerre entre les deux royaumes. C'est l'événement du siècle.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut préciser que les relations entre Édouard Ier et Philippe le Bel à la fin du XIIIe siècle étaient exécrables, puisqu'ils se disputaient l'Aquitaine, et ce mariage avait pour objectif de pacifier les relations. C'était vraiment un événement considérable, et c'était d'autant plus considérable qu'il y avait pas moins de quatre reines présentes à ce mariage. Bien sûr Isabelle, mais également sa tante, Marguerite de France, qui était reine douairière d'Angleterre, Marie de Brabant, qui était reine douairière de France, et Marguerite de Bourgogne, qui était reine de Navarre, considérée comme la future reine de France. Donc c'était une assemblée à la fois prestigieuse et féminine.
Mais dès son plus jeune âge, on semble louer la beauté d'Isabelle de France, son intelligence aussi. Qu'est-ce qu'on sait d'elle et de ses jeunes années à la cour de France?
Alors, comme vous le disiez, assez peu de choses, parce que les sources, les chroniqueurs ne s'intéressent pas vraiment aux enfants, et puis il nous manque des éléments comptables. Mais néanmoins, on sait qu'elle circulait avec ses parents, elle se déplaçait avec sa fratrie, puisque la cour était itinérante, de château en château, et que le couple royal privilégiait souvent le château de Vincennes. On sait aussi qu'elle était éduquée avec les garçons, à partir de miroirs. Ce sont des manuels de morale chrétienne qui d'ailleurs privilégiaient pour les filles le silence et l'humilité, hein, il faut le préciser. Et puis il y avait des activités récréatives, je pense à la broderie bien sûr, mais aussi les échecs.
La musique aussi peut-être?
Un peu de musique, et puis la chasse aux faucons qui était très prisée.
Clémentine?
Et Isabelle de France épouse Édouard II, donc elle sait qu'elle va devenir devenir reine d'Angleterre. Et à l'arrivée en Angleterre, elle voit son mari se jeter dans les bras de Gaveston. Est-ce qu'elle avait la moindre idée de ce qu'il attendait de ce point de vue-là? Est-ce que ça choque l'opinion? Et est-ce qu'elle... Pour elle, c'est une surprise.
Alors, c'est certainement une surprise parce qu'elle n'a que 12-13 ans, donc elle est extrêmement jeune, même si elle est préparée de longue date à ce mariage. Mais il faut quand même préciser que les Français, eux, ont été extrêmement choqués. Et pas uniquement par les embrassades. Parce qu'il y a eu un très gros malentendu, c'est que les cadeaux d'Isabelle ont été confiés à Gaveston, à ce favori, par Édouard II. Et les Français l'ont pris comme une spoliation des présents offerts à Isabelle. Or, je disais que c'est un malentendu parce que Gaveston avait été nommé régent du royaume en l'absence du roi. Et donc, il fallait voir, en fait, dans cet envoi des cadeaux, non pas une spoliation, mais une mise en sécurité. Mais en tout cas, ça n'a pas mis une bonne ambiance.
Mais la légende noire, c'est ça, c'est qu'il donne les bijoux de la couronne de France à son amant.
Voilà.
Isabelle de France, je l'ai rappelé, c'est une vraie reine du shopping, puisqu'elle aimait se parer de ses plus beaux habits, des plus beaux bijoux. Elle a d'ailleurs un couturier à plein temps, des tenues très extravagantes. Est-ce que ce côté fashionista qu'elle affichait est inédit pour l'époque ?
Inédit, je ne sais pas, parce qu'il y a des reines avant elle qui sont réputées et connues pour leur goût du luxe. Dans le cas d'Isabelle, elle a certainement un goût pour les achats originaux. Et je vous donne un exemple, c'est que lorsqu'elle était sur un séjour en France près de Chartres, elle acquiert une broderie qui représente des babouins. Et donc ça a beaucoup intrigué et ça prouve peut-être une forme d'excentricité, disons. Mmh.
J'ai rappelé qu'au Moyen-Âge, les habits étaient une véritable carte d'identité et pouvaient nous donner des informations sur le rang d'une personne. Concrètement, quels sont les symboles vestimentaires les plus forts à cette période? Est-ce que c'est le fil, par exemple?
Alors, ce qui distingue la noblesse, c'est bien sûr d'abord la qualité des étoffes, qui portent de jolis noms, comme le samite, le sandal, les draps d'or de Chypre, de Frise. Mais la vraie distinction de rang se fait par la vivacité des couleurs. Les pauvres et les riches portent les mêmes couleurs. Mais ce qui les distingue, c'est que les riches portent des couleurs chatoyantes, très vives, et les pauvres, des couleurs un peu délavées, éternes. Mmh. Donc la vraie distinction, en fait, elle est là.
Mais on a l'impression, vous nous la décrivez un peu comme une fashion victim, Stéphane, mais c'est le paradoxe de cette fille de roi, c'est que c'est aussi une femme de tête, elle est fine diplomate, et on a l'impression qu'elle va passer son temps, quand elle prend un peu d'assurance à la cour d'Angleterre, à éteindre les feux, notamment les feux diplomatiques allumés par son mari. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, parce que Édouard II a un comportement absolument insensé avec ses favoris. Il est prêt à aller jusqu'à la guerre civile pour les défendre. Donc, très souvent, elle intervient comme médiatrice de paix. C'était souvent le rôle des reines au Moyen-Âge. Et elle fait ce qu'elle peut. Mais elle intervient aussi dans des situations qui ne sont pas de l'ordre du conflit en Angleterre. Puisque, par exemple, en 1314, elle est missionnée par Édouard II lui-même et ses conseillers pour aller traiter ce qu'on appelle les appels gascons, qui sont des vieilles affaires qui concernent l'Aquitaine et qui traînent depuis Édouard Ier. Donc elle va négocier avec son père et elle obtient des accords favorables à l'Angleterre. Donc oui, on peut dire que c'est une fine diplomate.
Elle prépare sa vengeance contre son époux lorsque celui-ci est avec son deuxième favori. Et finalement, ce qui aurait pu être vu comme du théâtre de boulevard devient la grande histoire. Pourquoi, selon vous, elle prend cette décision? Et l'humiliation est trop grande? Elle ne veut pas rester les bras croisés?
Disons d'abord qu'elle est tout à fait loyale jusqu'à son séjour en France. Elle est loyale à son mari. Si elle se retourne contre lui, c'est bien de sa faute quand même. Quand le roi et son favori arrivent à vaincre leurs opposants, ils en ont beaucoup, eh bien ils deviennent extrêmement riches parce qu'ils exercent des spoliations de domaines, ils imposent des amendes. Donc ils sont très riches et ils commettent une très grave erreur, c'est qu'ils ne partagent pas avec Isabelle. Alors elle commence déjà à avoir du ressentiment. Et puis plus grave, bientôt il la soupçonne d'entente avec la France, avec son frère Charles IV, qui règne alors, et il lui confisque ses terres et les revenus qui vont avec. Et là, il se passe quelque chose de grave, c'est qu'elle ne peut plus tenir son rang, comme on disait à l'époque, son rang de reine, et elle écrit même à son frère, Charles IV, qu'elle est dans la misère et qu'elle vit comme une servante. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça vous dit le sentiment d'humiliation qu'elle ressentait, et c'est certainement pour ça qu'elle passe à l'action.
Et lors de son séjour en France, alors elle réussit à tourner la situation à son avantage, puisque les soutiens du roi Édouard II se font rares, le roi est devenu en quelque sorte l'homme à abattre. C'est à cause de cette réputation que son plan de bataille, finalement, va fonctionner. Tout le monde se retourne contre le roi et la soutient.
Absolument. Tout le monde se retourne, surtout, et veut abattre le favori des Spencer. Donc, si son plan fonctionne, c'est pour ça. Et surtout, il y a une faute politique d'Édouard II qui envoie son fils en France. Elle a donc la légitimité d'avoir l'héritier du trône à ses côtés.
Mais cette histoire, c'est quand même un peu l'arroseur arrosé, parce que elle réussit à se débarrasser de son époux et de Spencer. Elle prend en somme le pouvoir avec son propre favori Mortimer, mais c'est son propre fils, après Édouard III, qui va se retourner contre elle.
Oui et non. C'est vrai qu'il accède au trône dans des circonstances un peu de coup d'État, puisque Isabelle et Mortimer ont emprisonné et déposé Édouard II. Ensuite, Édouard II est assassiné d'atroce façon. Donc, le prince a pu effectivement avoir du ressentiment, mais il avait surtout du ressentiment vis-à-vis de Mortimer. Certes, il l'a éloigné de la cour, mais il a protégé sa mère. Mais c'était plus dans une optique de la protéger de ses opposants. Il lui a quand même alloué, elle était à Windsor, elle n'était pas dans un taudis, et il lui a alloué une rente de 3000 livres qui était quand même une somme tout à fait considérable. Elle avait un hôtel nombreux, il lui faisait des cadeaux, des reliques, parce qu'elle était très attachée au saint. Et donc, on peut dire qu'il y avait certainement une bonne entente et que les relations se sont pacifiées très vite.
Puisque vous parlez de la figure morale d'Isabelle de France, vous avez également écrit sur l'affaire des Brus, connue notamment grâce à la saga des Rois Maudits, écrite par Maurice Ruand. En 1314, Isabelle de France accuse ses trois belles-sœurs d'adultère et ces dernières seront ensuite emprisonnées. Selon vous, est-ce que déjà ces faits sont avérés et qu'est-ce que ça montre justement du caractère et de ce que représente, ce que véhicule Isabelle de France ?
Alors, non. Ces faits ne sont pas avérés. D'abord, j'ai montré dans mon étude que les princesses ne pouvaient pas avoir commis le crime d'adultère pour lequel elles ont été condamnées. Et la source qui nous indique qu'Isabelle de France a accusé ses belles-sœurs d'adultère date de 80 ans après les faits. Donc ce ne sont pas des nouvelles de première fraîcheur. Elles émanent d'un historien qui s'appelle Jean d'Outremeuse, un historien flamand, et qui a l'imagination extrêmement vive. Et donc, on peut dire qu'Isabelle, non, n'a pas accusé ses belles-sœurs d'adultère.
Donc en fait, elle ne l'a pas fait, et vous ne pensez pas que les princesses, les belles-filles du roi, étaient adultères ?
Non, elle ne l'était sûrement pas, pour des raisons à la fois dynastiques, morales, et puis d'aspects tout à fait pratiques et logistiques, puisqu'elles étaient constamment entourées.
Enfin, les deux frères ont été...
Ils ont bien été zigouillés dans des
conditions atroces. Alors, les faits qui sont avérés, c'est que les princesses ont bien été accusées, qu'elles ont été emprisonnées, l'une est morte tragiquement, et que les frères d'Aulnay, les amants supposés, ont été vraiment torturés.
Torturés, horriblement.
Et puis exécutés dans d'atroces conditions.
Merci beaucoup, Gaëlle Odéon, d'être venue avec nous sur cette reine du shopping et surtout reine tout court qui a marqué l'histoire de France et de l'Angleterre par son style et surtout par sa finesse d'esprit. Je rappelle vos ouvrages pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur cette période et celle de Philippe le Bel, À la cour de Philippe le Bel et Philippe le Bel et l'affaire des Brus, parus tous les deux aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Exactement, cher Stéphane. Et d'ailleurs, j'ai un indice musical pour vous deux.
Docteur, quelle est ta douleur, docteur ? C'était du sang torpeur, docteur.
Alors,
sur la vaccination, l'inoculation de la variole.
On va s'inoculer tous ensemble. Non, pas du tout. On va parler de docteur, mais d'un docteur en particulier, d'après vous. Quel docteur?
Docteur Folamour, docteur Jivago.
Non, beaucoup moins joyeux que ça.
Docteur Petiot.
Docteur Petiot, exactement. Mais ça vous vient d'où tout ça?
Je sais pas.
Voilà. Bon, dès qu'il y a du sang,
dès qu'il y a une oreillette aussi.
Ah non. J'ai des inspirations qui me viennent d'ailleurs.
On verra ça tout à l'heure pendant le quiz.
Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, alors qu'on réunit des reines du shopping, vous nous racontez, vous, des rois de la shop. Des coureurs de dot qui jetaient leur dévolu sur des femmes fortunées. C'est ce qu'a vécu une certaine Valentine de Chimay, Clémentine.
Oui, Stéphane, c'est l'un des célèbres mariages ratés du 19e. Je vais vous raconter. Cette Valentine de Chimay, elle était issue d'une grande famille aristocratique belge. Elle était la petite fille de Madame Tallien. Son vrai nom, d'ailleurs, est vachement plus joli. C'est Valentine de Riquet de Caraman-Chimay, voyez-vous. Elle est née le 15 février 1839. Et elle a été victime d'un de ces coureurs de dot. En fait, un jour de 1861, l'impératrice Eugénie de Montijo, qui devait jouer, elle s'ennuyait un peu sans doute à Paris, elle devait aimer jouer les marieuses à ses heures perdues, eh bien, elle écrit au prince de Chimay en son château des Ardennes. Et elle lui dit, écoutez, si vous n'avez personne en vue pour votre fille Valentine, j'ai le candidat idéal, le prince Paul de Beaufremont, chef d'escadron au 6e Hussards. Sur le papier, ça fait bien quand même. Alors on organise une brève rencontre à Bruxelles entre les futurs mariés, donc ils ne se connaissent pas. Et là se produit une sorte de cérémonie façon vente de tapis. Devant témoins, on fait une sorte d'inventaire détaillé de la fortune de l'un et de l'autre, de leurs avoirs, de leur rang, de leurs biens immobiliers, de la dot, car le régime matrimonial adopté est le régime dotal. La mariée a beaucoup plus que le marié, Valentine de Chimay. Lui doit en somme s'endetter pour l'obtenir. Il apporte à son épouse sa future part dans la succession de son père, qu'il n'a pas encore, mais enfin il a de belles espérances. Et puis sa mère s'engage à lui servir une rente. Les invités sont là, écoutent tout ça avec intérêt et gourmandise. On se croirait dans un roman de Balzac. Alors, quoi qu'il en soit, la petite Valentine, là, elle a eu à peine le temps de faire la connaissance de son futur mari, que celui-là, il part bride abattu pour l'Italie parce qu'il veut aller enterrer sa vie de garçon en Italie. Et bon, c'est pas grave, c'est promis, je reviendrai quand même 15 jours avant le mariage. Allez, avril 1861, ça y est, les voilà mariés. Et Valentine, qui est une jeune aristocrate mondaine, qui aimait la grande ville, aimait les loisirs, etc. Elle se retrouve avec son mari à devoir aller de garnison en garnison. Et en plus, le gros hic, c'est que le Beaufremont en question n'est pas du tout fait pour le mariage. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre. Hein. Il est d'ailleurs un bon soldat. Il reviendra du Mexique avec la Légion d'honneur. Mais il aime non seulement se battre, mais ce qu'il aime aussi, c'est les toutes jeunes femmes et les prostituées. Sa femme, à ses yeux, n'est là que pour lui donner des enfants. Elle se retrouve enceinte, elle accouche d'une fille. Alors à ce moment-là, son mari, que ça rase encore plus de se retrouver avec une femme enceinte, s'en va, il va voyager. Quand il rentre du Mexique, il ne la trouve pas chez elle. Il lui envoie un télégramme. « N'ai pas trouvé mes chemises. Faites-moi savoir immédiatement où elles sont. » Charmant, la vie conjugale avec le
beau frère. Elle aurait pu s'en douter quand on lui a présenté.
Elle n'avait pas le choix. On ne lui a pas donné le choix. On lui dit c'est lui. En plus, elle a été désignée par l'impératrice. Donc, tu l'épouses et tu discutes pas. Alors là, à ce point de leur mariage, à chaque fois qu'ils se croisent, le mari lui fait des scènes. Donc, elle en a marre. Et sur les conseils de son ami Georges Bibesco, qui deviendra aussi son amant et futur mari, elle finit par demander la séparation. Mais à cette époque, le divorce est interdit. Il faut avoir subi des sévices ou des injures graves pour obtenir la séparation de corps. Or, la justice considère que c'est pas son cas. Elle tranche sur ce point 1870 en disant non, vous n'y avez pas le droit. Elle retente sa chance. Ça commence à s'envenimer tout ça parce que Beaufremont et Bibesco se battent en duel à la Selle Saint-Cloud. Bibesco blesse Beaufremont qui va passer 10 jours au lit et Bibesco lui va faire 6 jours de prison. Ça sent le roussi tout ça. Et coup de théâtre, Bibesco enlève la princesse et ses enfants. elle se fait naturaliser dans le duché de Saxe-Altenbourg, où le divorce est autorisé, et elle épouse son Bibesco à Berlin en octobre 1875. Mais l'autre Beaufremont, qu'en avait rien à faire de sa femme, il riposte et il obtient en 1876 l'annulation de ce mariage et la garde de ses enfants. Et il obtient même une sorte d'astreinte de 100 francs par jour, 1000 francs par jour d'absence des enfants. Il dit à ta princesse, ton mariage en Allemagne, il est annulé, les enfants, tu me les ramènes, sinon c'est 1000 francs par jour. Et au bout d'un an, ça fait 300 000 francs, et elle va être obligée de vendre le château dont elle avait hérité de sa maman. Vous vous rendez compte, ce mauvais mariage avec un coureur de dot, quelle galère quand même. Donc il vaut mieux choper tout de suite le bon. C'est ça la morale de cette histoire.
Et laisser parler l'amour.
Quand il y en a, voilà. Elle aurait dû épouser tout de suite un Bibesco, on l'avait choisi.
Quand il y en a, vous ne croyez plus en l'amour. C'est terrible.
Merci Clémentine.
Je prends l'argent.
Et maintenant, c'est le moment de l'émission où l'on me pose des questions. Et j'avoue que ça soit au commissariat ou dans cette émission, moi j'essaie de répondre le plus honnêtement possible.
Oui, il faut avouer que durant ce quiz, on peut vous reprocher beaucoup de choses. De regarder votre portable, de répondre à votre courrier, de jouer à Candy Crush. Mais pas d'être malhonnête dans votre réponse. Ça ne vous suit pas trop d'ailleurs.
Candy Crush, je vous assure, ça donne une source d'inspiration pour vos questions.
Vous êtes sûr, ces petits bonbons, ça vous met en joie? Ok, et ben, on va vérifier ça tout de suite. On va jouer. On va jouer avec vous, Stéphane. 1946. Petite source d'espoir pour l'humanité, c'est la naissance de Jane Birkin et le décès du docteur Petiot. Je crois qu'on y gagne. En 1944, le docteur Petiot est incarcéré. On a retrouvé chez lui les restes de 27 personnes. Pendant qu'il est en prison, il en profite pour écrire un livre. Mais un livre sur quoi ? Sur les jeux de hasard ? Sur la taxidermie ? Ou sur les secrets de l'Elysée préfacés par Stéphane Bern.
Alors bon, c'est pas la dernière.
Est-ce qu'il n'était pas taxidermiste, Stéphane Petiot?
Oui, ça pourrait être le cas. La logique voudrait que l'on réponde taxidermie.
Oui.
Mais si vous êtes un peu pervers, je me dis les jeux de hasard.
Ah oui, c'est drôle aussi. Ouais.
Drôle.
Ouais.
Alors, quelle est votre réponse? Les jeux de hasard, taxidermie ou l'Elysée, vous n'y croyez pas?
Non. Taxidermie, c'est assez logique.
C'est assez logique. Est-ce que la logique a une place dans cette émission? On regarde ça.
Vous avez perdu.
Non.
En plus, c'était votre intuition.
Ouais. Mon intuition, c'était... Bah oui.
Non, c'était un livre sur les jeux, sur les probabilités, sur ce qu'on appelle la martingale, à savoir les différentes stratégies pour augmenter ses gains. Le docteur Petiot profite même de suspension de séance pendant le procès pour dédicacer son livre et ne reculer devant rien. Une question pour vous, Clémentine. Judas, ça vous parle, Judas?
Oui. Ah
bah oui, quand même.
Mais quand Judas a trahi Jésus, et quand il comprend que ce dernier sera condamné, Judas est pris d'un grand remords. Oui. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Matthieu dans son évangile. Judas redonne 30 pièces au grand prêtre, argent qu'il avait touché pour trahir le Fils de Dieu. Où va finalement passer l'argent? Ils vont acheter un champ, un bœuf, ou jouer croissant chaud, placé au quintet plus à Longchamp.
Acheter un champ, me semble-t-il. 30 deniers, c'était une somme importante. Ça correspondait au salaire mensuel d'un légionnaire. Vous voyez, c'était à peu près un SMIC un peu gonflé.
Pour dénoncer quelqu'un, c'est peu. C'est peu quand même.
Ils sont en doute de quoi s'acheter un champ. Moi, je dirais un champ.
Un champ pour Madame Panty-Kaltenbach.
Vous avez... gagné.
Ils achètent un champ qui servira à enterrer les étrangers. Le champ était baptisé le champ du sang. Un point pour Clémentine. Ouais. Stéphane, vous pouvez égaliser avec cette question.
Non, je peux pas.
Là. Monsieur, croyez-y. Moi, je crois en vous. 1943, Camille Claudel meurt, mais Julio Iglesias naît. Claudel est décédée en s'étouffant en mangeant du poulet. Vrai ou faux? Et est-ce qu'elle est décédée en s'étouffant en mangeant
du
poulet?
Folle, surtout.
Il est vrai que ces années d'internement comme folle sont déjà tellement tristes, tellement dures que
oui, ça pourrait être le cas.
Oui, alors, oui, elle a fait une fausse route en mangeant un nuggets.
En mangeant du poulet.
Surtout, c'était un dimanche, c'est le jour des frites et du poulet.
Dans les établissements
hospitaliers.
Elle est morte autrement.
Autrement?
Oui.
Allez, on regarde ça.
Vous avez gagné!
En effet, elle est morte autrement. C'est exactement ça, on ne peut pas être plus précis. Non, elle est plutôt morte de faim. Deux mois avant sa mort, le directeur de l'hôpital psychiatrique écrit à son frère Paul Claudel, je cite...
Oui, qu'elle ne se nourrissait plus.
Mes fous meurent littéralement de faim. 800 sur 2000.
Ah non, c'est vraiment...
Ah oui, vraiment.
Mais oui, et c'est pendant la guerre, ils ont encore plus souffert que la population... non internée des restrictions, c'est ça.
Exactement.
Elle est morte d'inanition, en somme, Camille Claudel. Enfin, d'affaiblissement.
Oui. Exactement.
Oh, c'est très triste. Oh.
On va rester sur la même thématique pour vous, Clémentine. Enfin, à peu près. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Alors, ce n'est pas une citation de notre ami Olivier Pouls, mais de Rabelais. Humaniste de la Renaissance, on lui doit le livre Gargantua, mais aussi le mot agélaste. Ça désigne une personne qui ne sait pas rire, une personne qui ne sait pas aimer, ou une personne qui ne sait pas que la terre est ronde. Agélaste.
Moi, je dirais plutôt une personne qui ne sait pas aimer.
Qui ne sait pas aimer.
Vous avez perdu.
C'est rire.
Exactement, ouais, c'est ouais. Une personne qui ne sait pas rire en grec ancien. Enfin, agélastos, c'est qui ne rit pas.
Il
va y avoir une question pour vous départager, mes amis. L'histoire a aussi ceci de passionnant, c'est qu'elle peut nous faire prendre conscience que l'humanité s'améliore. Parfois c'est le cas, parfois non. En matière de soi à la perche, c'est plutôt vrai. Car on saute de plus en plus haut, vous l'aurez remarqué. En juillet de l'année dernière, un Suédois qu'on embrasse a franchi 6 mètres 21. La première fois qu'on a mesuré un saut à la perche dans une compétition, c'était en 1912. De combien était le record à l'époque ?
4 mètres.
Et vous, Stéphane ?
3 mètres 50.
3 mètres 50. Écoutez, je suis très heureux de dire aujourd'hui que c'est Clémentine qui remporte ce jeu, qui a été pratiquement sur un tout pile. 4 mètres 02.
Oh, ah,
bravo. 4 mètres 02.
Ah, quelle intuition.
Ah là là. Ouais, ça s'est passé dans le Massachusetts, mais bon, c'est pas une raison. En tout cas, c'était 4 mètres 02.
Ça peut se passer n'importe où. Hein.
Exactement. Félicitations, Clémentine.
Bravo. Ah, merci.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre. Continue avec Jean-Luc Lemoyne, David Castillo-Lopez, Yvan Jacob et nos reines du shopping. Après l'anglaise Isabelle de France, je vous raconte Eva Perron, la plus chic des premières dames.
Ah, c'est pas Brigitte Macron. Eh ben, elle va être déçue d'entendre ça, Stéphane. Très déçue.
Vous savez, moi je parle d'histoire, Jean-Luc. Hein. Eva Perón, connue tout à la fois pour sa défense des plus pauvres en Argentine que pour ses looks glamour dignes d'une star de cinéma qu'elle aurait d'ailleurs aimé être. Et vous, Jean-Luc, vous allez continuer à dire des bêtises puisque vous nous racontez une reine du shopping qui voulait l'être et qui l'est, qui les anime même. Les reines du shopping.
Oui, je vous raconte la magnifique Christina Cordula qui s'est fait une place de choix dans le rôle king à la télévision.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
C'est sans doute la première dame la plus célèbre de l'histoire, aussi connue dans le monde entier pour son engagement auprès des descamisados, ces sans-chemises des milieux ouvriers populaires argentins, que pour ses looks glamour et ses cheveux blonds platine dignes d'une vedette américaine. Je vous raconte maintenant Eva Perón. Nous sommes le 12 juillet 1947. Eva Perón descend de l'avion à l'aéroport d'Orly sous les regards admiratifs du corps diplomatique français. Dans son tailleur blanc éclatant, la veste décolletée en V et son chapeau à large bord assorti, Evita est superbe, une star de cinéma. Pour son voyage européen, la première dame argentine n'a rien laissé au hasard. Elle a emporté une dizaine de malles contenant ses plus belles toilettes. Paris a pour elle un intérêt supérieur aux autres étapes de son périple. C'est la capitale de la mode et elle compte bien en profiter. Eva Maria Duarte Perón a alors 28 ans. Elle est née le 7 mai 1919 dans une zone rurale aux portes de la Pampa, à quelques 200 km de la capitale argentine. Sa mère, Juana, prépare les repas des gauchos dans la hacienda d'un grand propriétaire dont elle devient la maîtresse. Ensemble, ils ont 5 enfants. Evita est la petite dernière. Abandonnée par ce père volage qui meurt bientôt dans un accident, Eva grandit dans la misère et les humiliations que son statut de bâtarde lui vaut. C'est une petite fille farouche dont les épais cheveux noirs et les grands yeux assortis tranchent étonnamment avec son teint d'albâtre. Des injustices de cette époque, Eva garde un caractère passionné et colérique. D'aussi loin que je me souvienne, chaque injustice blesse mon âme comme si on y clouait quelque chose, écrit-elle. Pourtant, la jeune fille ne se passionne pas pour la politique. Dans la pension qu'a ouverte sa mère, Eva rêve. Branchée sur la radio nationale, elle écoute des feuilletons en tournant les pages des magazines de mode et de romans à l'eau de rose. Elle s'imagine actrice et se déguise, faisant d'un chiffon un top de star hollywoodienne. Une vedette surtout la fait rêver. La plus platine de toutes les blondes, Jean Harlow. À ses sœurs, Eva confie « J'aurai le monde à mes pieds ». Fantasme de petite fille, oh, sans doute. Mais comment expliquer cette autre confidence incroyablement prémonitoire ? Je me marierai avec un prince ou un président. Une chose est certaine, c'est d'un mariage avec un homme d'ici dont Eva ne veut pas. Dans son triste pueblo, elle s'ennuie à mourir. La chance surgit le 3 janvier 1935, elle a les traits d'un chanteur de tango. Eva lui fait son numéro, de sa voix rauque, elle lui récite des vers, il lui glisse son adresse sur un bout de papier déchiré, Buenos Aires. Quelques semaines plus tard, Eva quitte sa province natale, un billet de train en main et 100 pesos en poche. Elle n'a pas encore 16 ans. Eva ne connaît rien au théâtre, elle n'est pas particulièrement douée ni incroyablement jolie, mais elle croit en elle. Assez pour supporter des conditions de vie précaires dans des appartements miteux, l'adolescente s'achète une paire de talons hauts et imite au crayon des barésies sur ses mollets. Elle travaille sa coiffure, rembourse son soutien-gorge, souligne ses yeux de noir et peint sa bouche en rouge. Après 5 longues années de figuration, Eva réussit à se faire embaucher par une troupe de théâtre qui crée des feuilletons à la radio. Et c'est par ce biais qu'en 1942, enfin, elle décroche un vrai contrat. Une émission quotidienne diffusée le soir sur Radio Belgrano sur la vie des grandes femmes de l'histoire. Eva y interprète Catherine de Russie, Isadora Duncan, Sarah Bernhardt. Sa gouaille fait le succès du programme. La voilà connue et reconnue. Elle peut oublier la misère et s'offrir un appartement dans le quartier cossu de Recoleta. Mais le destin de la jeune femme bascule véritablement 2 ans plus tard, lorsqu'un soir de janvier 1944, dans un gala de charité, elle fait la rencontre de Juan Perón, secrétaire d'État au travail. Elle a 24 ans, il en a le double et tombe immédiatement sous son charme. Le couple se marie moins de 2 ans plus tard et en février 1946, Perón est élu président. À ses côtés, Eva est omniprésente. Il est le tacticien, elle est le cœur, le relais auprès des travailleurs, des opprimés, des plus faibles. Evita visite des usines, s'occupe de l'aide alimentaire et livre même des vélos aux enfants des quartiers pauvres. Elle suit la construction d'orphelinats et de foyers pour les mères célibataires. Son combat pour la condition féminine s'illustre dans le droit de vote pour les femmes obtenu en 1947, l'année de son voyage à Paris. Madone délaissée pour compte, Eva Perón ne dédaigne pas le luxe pour autant. Dans la capitale française, elle loge au Ritz. Un jour, alors qu'elle est attendue dans un quartier défavorisé où elle a prévu une distribution de nourriture, Evita brille par son absence. On a organisé pour elle un défilé privé des dernières collections parisiennes qui lui a fait oublier ses obligations. Honteuse, Eva annule l'événement mais prend tout de même le temps de glisser ses mensurations à une modeste maison de couture, celle de Christian Dior. De l'autre côté de l'Atlantique, le couturier lui enverra désormais ses robes New Look sur mesure et dira qu'elle est la seule reine qu'il ait jamais habillée. Mais Evita n'est pas une aristocrate et pour ses détracteurs, cet amour du luxe tranche trop vivement avec la nature de son engagement politique. Eva Perón, elle, résout ses contradictions avec un naturel désarmant. Tandis qu'elle visite les taudis de Buenos Aires parés de ses diamants, émeraudes et saphirs signés Van Cleef & Arpels, « Je les prends des mains des oligarques pour vous », crie-t-elle au peuple. « Un jour, vous hériterez de la collection entière. » Pour Evita, tout le monde doit pouvoir prétendre aux plus belles choses, et pas seulement les riches. Follement populaire, la première dame doit pourtant renoncer au poste de vice-présidente que ses supporters la supplient d'accepter. Evita est malade. Un cancer foudroyant la fauche à 33 ans seulement, le 26 juillet 1952. 3 ans plus tard, Juan Perón est renversé par un coup d'État. Pour en finir avec le culte d'Evita, le nouveau gouvernement exhibe ses bijoux et dresse l'inventaire de ses robes, chapeaux, chaussures et fourrures pour en dénoncer l'opulence. Mais les efforts pour salir son image semblent vains. Et Evita reste encore aujourd'hui, pour une partie du peuple argentin, une icône absolue.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Eva Perón, nous avons le plaisir d'accueillir une productrice. Bonjour Constance Ortuzar.
Bonjour.
Constance, vous avez produit un très riche documentaire Eva Perón, icône et passionnariat, réalisé par Julien Leloup et diffusé sur France 5 il y a quelques mois. Je viens de le raconter, Eva Perón est devenue un mythe. Il y a beaucoup de biographies, de documentaires la concernant. Qu'est-ce que vous, vous vouliez raconter à travers votre documentaire ?
Alors, c'est vrai qu'Eva Perón, c'est un personnage génial pour un film, puisqu'elle a une vie extrêmement romanesque, c'est un personnage très complexe. Elle a une ascension fulgurante, elle meurt à 33 ans, donc ça nous semblait un personnage très riche. Et par ailleurs, le réalisateur Julien Leloup, les équipes de France Télévisions, la production Programme 33, on avait tous à cœur aussi de faire un portrait qui soit à la fois le portrait de l'actrice, de la politicienne et du mythe. Souvent, Eva Perón, elle est traitée par le côté glamour, d'une façon un peu superficielle. On avait l'impression qu'on pouvait lui rendre justice en allant aussi creuser sa destinée politique et ses ambitions. Donc c'était une grande partie de l'ambition de ce documentaire.
Et est-ce que vous avez travaillé sur des archives inédites pour raconter la vie d'Eva Perón, par exemple des images jamais diffusées ?
Absolument, c'est un film tout en archives, c'est l'une de ses forces. On doit beaucoup aux équipes de France Télévisions qui, pour cette case d'histoire de France 5, essayent dans la mesure du possible de proposer le maximum de films tout en archives. Et là, on a travaillé avec une documentaliste et le réalisateur avec les fonds argentins. Donc on est allé vraiment fouiller en Argentine et le réalisateur a notamment mis la main sur une archive complètement inédite qui a été tournée en 48 à Bahia Blanca. On voit Eva très très proche de la foule. C'est des images qui n'ont jamais été vues. C'est un petit film en 16 mm de 12 minutes. C'est la première fois qu'il était montré. Après, il y a d'autres images qui sont beaucoup plus connues, mais on a essayé vraiment de couvrir tous les fonds argentins et on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux.
Ce qui est fou, Eva Perón commence très jeune à faire de la figuration et des petits rôles à la télévision argentine, mais c'est à la radio qu'elle explose véritablement. Finalement, toute jeune femme, elle a déjà une verve, elle a un sens du discours, une voix qui séduit.
Absolument, elle a une voix rauque, elle pose ses mots, elle a beaucoup de puissance dans la voix et elle a vraiment ce talent de verve qui est d'ailleurs ce qui va séduire le peuple et ce qui va la caractériser au-delà de son look.
Jean-Luc,
Eva Duarte rencontre son futur mari Juan Perón en 1944 et à ce moment-là, tout semble les opposer. Qu'est-ce qui les séduit l'un chez l'autre ce soir de gala ?
Alors, je pense que c'est quand même la rencontre de deux âmes qui sont faites pour aller ensemble puisqu'ils partagent beaucoup de charisme. Une vraie ambition sur la justice sociale. Je pense que le discours politique que fait le pas encore président, le général Perón, séduit vraiment Eva, qui elle déjà est impliquée en politique. Elle est impliquée auprès du syndicat des travailleurs de la radio. Donc elle s'intéresse réellement à sa vision politique. Il est assez charismatique, elle est jeune, elle est assez belle, elle a presque 20 ans de moins que lui. Enfin voilà, il a été dit que ça a été un véritable coup de foudre, en effet.
Mais ça a été un vrai couple aussi politique, leur destinée sur la scène politique est indissociable l'un de l'autre. Pourtant, ils ne partagent pas forcément les mêmes idées politiques.
Alors, il y a un peu des deux. Ils partagent quand même vraiment cette volonté de justice sociale, la volonté de créer un État-providence. Il y a quand même, dans le fond de leur vision politique, beaucoup de choses en commun. Après, c'est vrai que Eva va beaucoup influencer Perón. À un moment, on se demande si c'est pas elle qui tient les ficelles de l'État. Et sur des questions très précises, elle obtient un gain de cause, par exemple, sur la question internationale. Elle supplante le ministre des Affaires étrangères parce qu'elle est favorable à une troisième voie. On n'est pas sûr qu'elle s'y connaisse tant que ça en politique internationale, mais elle a ses convictions et sa force de caractère fait qu'elle passe devant le ministre des Affaires étrangères. Et puis à la fin du mandat de Perón, quand l'Argentine connaît une grave crise économique, Eva, elle est jusqu'au boutiste et Perón veut lever le pied sur la justice sociale et elle insiste et elle, encore une fois, obtient gain de cause et le pousse à ne pas écouter ses conseillers pragmatiques. Donc elle est beaucoup plus jusqu'au boutiste que lui, je pense.
Ivan ?
Oui, Stéphane l'a rappelé, Eva Perón, c'est une première dame extrêmement populaire et en même temps, elle est une icône de mode et elle n'est pas seulement bien apprêtée, en fait, elle est vraiment à la pointe de la mode et notamment avec les robes new look de Christian Dior. On la voit sur les photos, elle est souvent en robe bustier avec vraiment cette forme très évasée, des étoles en fourrure par-dessus. Est-ce que vous avez vu cette évolution ?
Ah, bien sûr.
Et est-ce que vous avez des looks marquants
dans le documentaire, évidemment, les premières archives, elle opte pour un look qui est plutôt le look de sortie de guerre, donc des vêtements qui empruntent un peu au dressing masculin, et puis progressivement elle a des looks de plus en plus féminins, de plus en plus princesse. Elle va adopter en effet le look Dior, elle porte beaucoup aussi de robes Ricci, de robes Lanvin, elle porte beaucoup de bijoux, beaucoup de fourrure. Sur les archives qu'on a, elle est quand même très souvent en fourrure. Elle va aussi tomber à Paris, je crois, amoureuse du créateur Jacques Fa. Elle va porter une nuisette, il me semble, et ça devient un de ses créateurs favoris. D'ailleurs, sur le portrait officiel avec Perón, elle porte une création de Jacques Fa.
Marcel Rocha aussi,
ouais,
qui a été Rocha, un peu oublié aujourd'hui.
Ouais, ouais. Et il y a des looks très marrants. Dans sa visite au Vatican en 47, elle est tout de noir vêtue avec de la crêpe noire sur les cheveux. Par contre, elle aborde sur la poitrine un énorme diamant. Je crois que c'est l'un des plus gros diamants du monde. tout en discrétion.
Au-delà de ses looks, on sent que sa carrière d'actrice lui a donné le sens de la mise en scène. J'ai ouvert mon récit sur cette descente d'avion à Orly en 1947 et les journalistes de l'époque commentent déjà son élégance. On écoute.
Poursuivant son voyage en Europe, Madame Eva Perón, femme du président de la République d'Argentine, arrive à Paris précédée d'une réputation d'élégance et de beauté qui justifierait à elle seule l'accueil qu'elle y reçoit.
Qu'est-ce qui suscitait au fond le plus d'admiration chez elle ? Ses looks, ses idées ou le mélange des deux et peut-être la contradiction des deux ?
Je pense qu'en effet, la contradiction et le mélange des deux est ce qui génère cet intérêt. Après, il faut savoir qu'à l'époque de cette tournée européenne, la presse féminine notamment commente tous les jours les looks de la première dame argentine en Espagne, en Italie, en France, au Portugal aussi où elle passe. Donc, il est évident que quand même ce glamour et ce look est ce qui attire l'œil et ce qui fait qu'on parle autant d'elle. Maintenant, elle est aussi nommée dans la petite archive qu'on vient d'entendre un peu plus tard, elle est aussi nommée la présidente, elle vient signer des accords commerciaux importants. Je pense que ça fascine qu'une aussi jeune femme, elle a 28 ans au moment de cette tournée européenne, ait des responsabilités aussi importantes, alors qu'officiellement, elle n'est que première dame, elle n'a pas de fonction officielle.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'une partie de ses opposants politiques et même des gens du peuple, dont elle se prétendait la voix, ou en tout cas le porte-voix, voyait pas d'un très bon œil cette opulence d'Eva Perón affichée, alors qu'elle disait, peut-être avec naïveté ou cynisme, je ne sais pas, je partagerai, tout ça vous reviendra. Du coup, ça lui a collé cette image à la peau.
Ah bah bien sûr, dans la presse d'ailleurs, même de son vivant, elle est traitée de diva. Enfin, il y a quelque chose d'aussi relativement négatif autour de ce trait, de ce glamour qu'elle affiche sans arrêt. Bon, après, ça a été très critiqué et c'est vrai que quand on a voulu déboulonner la statue d'Evita et de Juan Perón après sa mort, c'est la première chose sur laquelle les opposants ont sauté, c'est ce faste et ce luxe affiché.
Ivan,
malgré toutes ces polémiques et notamment après sa mort, est-ce que ses tenues, ses cheveux blonds et sa jeunesse aussi, sa beauté, son charisme ont contribué au mythe Eva Perón, un peu comme une Jackie Kennedy par exemple.
Ah bah bien sûr, je pense que c'est une grande partie du mythe. Évidemment, il y a sa mort à 33 ans, c'est l'âge christique, elle meurt très très jeune, donc elle n'a pas le temps non plus de se corrompre par certains côtés, elle meurt au faîte de sa gloire. Mais son image permet d'être très reproductible. D'ailleurs, aujourd'hui, la présidente Kirchner en Argentine, il y a quelques années, s'affichait encore avec des portraits d'Eva Perón. Elle a été incarnée par Madonna, c'est bien sûr une icône glamour, de mode, ça a énormément contribué à la rendre aussi célèbre, même si je pense que, et c'était un peu l'idée de notre documentaire, ça ne peut pas être que ça. Pour être aussi connue, il faut qu'elle ait eu une réelle action politique, une réelle ambition, une réelle volonté propre, et ce n'est pas une potiche du tout, Eva Perón.
Merci beaucoup, Constance Ortuzar, d'être revenue avec nous sur cette icône glamour politique et mystique qui a marqué l'histoire de l'Argentine et du monde entier. Hein, et à laquelle vous avez consacré un très beau documentaire, Eva Perón, icône et passionnariat pour France 5.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez et Yvan Jacob, on réunit des reines du shopping. Après Isabelle de France et Eva Perón, vous nous racontez, Jean-Luc, la magnifique Cristina Cordullo.
Allez, je fais mal l'accent shopping. Non, vous faites remarquablement bien. Moi, je l'ai entendu. Les reines du shopping. Vous êtes amateur du programme, Stéphane?
J'ai regardé.
S'il vous plaît.
Non, pas tout. Enfin, c'est l'après-midi.
Oh, merci, formidable. Laissez-moi vous le synthétiser en quelques mots dans ce cas. Une poignée de jeunes filles avec un budget déterminé et un thème à respecter ont, dans un temps imposé, la mission de se trouver une tenue complète, le tout sous l'œil des autres candidates qui, dans un esprit de bienveillance, de respect et de franche camaraderie, commentent face caméra le parcours des autres.
Sarah, Sabrina, cette tenue.
Bah, désolé, mais l'argent haut, l'argent bas, on dirait un sac poubelle.
En vrac. Oh. Et sans ordre d'importance, les reines du shopping, c'est de la castagne, du simili-cuir, des créoles plaquées or, une voix off sous haute dose de caféine. Si vraiment, tu sais pas pourquoi dans cette émission, ils ont pris la voix du mec qui devait être au chômage depuis Vidéogag.
Réponse très vite à Paris, car tout de suite, direction le plan pays en Belgique chez Aline.
Ah ouais, ils vont à fond. Hein. Donc les reines du shopping, c'est des filles qui courent en panique dans les rues commerçantes de Clermont-Ferrand avec Google Maps en main. Et à la tête de ce royaume, la modeuse des modeuses, la papesse du textile, celle qui en un verdict vous enveloppe d'assurance et de confiance. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'elle en dit du look de Stéphane Bern avec ses petits mocassins et sa chemise à jabot?
C'est un look efficace, c'est ce que j'appelle un intemporel moderne, donc c'est magnifique.
C'est qu'on ne peut pas ne pas aimer la solaire, l'unique, la sublime, Christina Cordula. C'est une reine. Elle est à la mode ce qu'Elisabeth II était au Earl Grey, une puriste. En quelques années seulement, elle a démocratisé le principe encore inédit jusque-là du corps alphabet. Vous connaissez le principe du corps alphabet, Stéphane ?
Oui, c'est les lettres. Il y a le H, le A ou le V. Et il faut choisir, parce qu'il y a ce que vous aimez et il y a ce qui vous va.
C'est pas tout. C'est à peu près pareil. Ça. Le principe est simple. Comparer la morphologie d'une personne à une lettre de l'alphabet pour lui faire comprendre de façon ludique ce qu'elle devrait porter ou non. Si je vous dis « Chérie, tu es un H ». Cela veut dire que votre taille et votre hanche sont dans le même alignement. Exactement.
Ce qui n'est pas...
C'est pas top.
Enfin, c'est différent.
C'est, oui, voilà. C'est bien pour passer les portes.
Moi, je suis un H, donc en fait...
Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique.
Comme ça.
Non, mais ça vous va très bien, vous.
Merci.
Oui, c'est, vous êtes un des meilleurs H qui soit.
Si je vous dis que vous êtes un V, c'est que vos épaules sont relativement larges. Et si je vous dis « Chérie, tu es un Z ». Bah, ça signifie que ça veut dire que ça va être difficile pour pécho. Christina, un chant lexical bien à elle. Sublime, magnifique et encore les très réguliers. Ma chérie.
Ça va, ma chérie.
Alors pourquoi ma chérie à votre avis? Parce qu'elle est sympa, hein? Eh ben pas que.
Parce qu'elle s'apprête à dire une vacherie.
C'est mais même parce qu'elle se souvient pas des noms des gens.
Ah, c'est ça.
Il sait quoi, pas ça, vous.
Il sait de quoi il parle.
Mais oui. C'est quand on se souvient pas des noms des gens.
Je crois que c'est grillé.
Oui, je crois que c'est grillé.
Je cite Christina. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Pourquoi pensez-vous que j'utilise tout le temps ma chérie, Stéphane? C'est donc pour ça que vous appelez tout le monde Coco, hein, dans l'équipe. Ouais. Parce que vous connaissez aucun prénom.
Si, c'est je les connais tous.
Non.
Allez-y.
C'est qui la dame à côté de moi?
Ben, c'est Yvan Jacob.
Ouais, bien sûr.
Mais il y a, il faut jeter un œil aussi attentif et pour toute l'équipe.
Oui, c'est ça.
Ceux qui sont dans l'ombre.
C'est
regardez,
bizarre.
Vous avez Benjamin, Philippe, Romain, Armel, Marie-Lou.
Waouh, sans faute.
Putain, sans faute.
Simon, Sébastien aussi. Puis on a eu des Kevin. Et même s'ils ne venaient jamais, on connaissait leur prénom.
Quel escroc celui-là. Christina Cordula, née en 1964 à Rio de Janeiro,
Ben, c'est au Brésil, le Rio de Janeiro.
Bah oui, Stéphane.
Rio de Janeiro.
C'est de parler interrogatif, faites-vous confiance.
Le Rio de janvier,
exactement.
C'est
passionnée de mode dès le plus jeune âge, la petite Christina réalise son plus grand rêve à l'âge de 5 ans. Elle défile pour une boutique pour enfants dans son quartier. Moi, à 5 ans, quand j'essayais de vendre des billets de tombola, on me jetait des pierres. Chacun son destin. Après le divorce de ses parents et la disparition tragique de son frère, Christina décide de s'en sortir seule. « Je n'ai qu'une vie », se dit-elle. Enfin...
« Eu só tenho uma vida ».«
Eu só tenho uma vida ».
Voilà, c'est ça. En portugais, c'est mieux. Hein, je ne savais pas si David serait là, donc je l'ai fait faire par Google Trad.
C'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit côté.
Un petit côté, oui. «
Eu só tenho uma vida
». Vous confirmez,
métal,
en tout cas.
Personne n'est en métal.
C'est ça. Elle étudie le journalisme et la communication à l'université, puis décide de quitter le Brésil. Alors qu'elle défile en Italie, à Milan, un ami coiffeur lui conseille de se couper les cheveux. Naîtra alors la coupe légendaire qu'on lui connaît. Grâce à 3 coups de ciseaux, un peu de lac et un « ça va la température ?», la carrière de mannequin de Christina décolle à l'international. Cette nouvelle coupe de cheveux fait sa renommée dans le milieu de la mode. Elle travaille alors pour les plus grands couturiers, Yves Saint Laurent, Christian Dior ou encore Chanel. Puis après le mannequinat, Christina découvre le monde très fermé du relooking. Elle ouvre son agence, Cordula Conseil, s'essaye à l'alphabet corporel, importe sa boîte en France et commence à faire son trou. Elle se fait recaler dans un premier temps lorsqu'elle postule pour animer l'émission « J'ai décidé de changer de look sur M6 » et ce, à cause d'un léger accent. Ah bon ? Je vois pas de quoi il parle. Mais en 2004, Christina Cordula apparaît enfin dans l'émission « Nouveau look pour une nouvelle vie » pour porter secours à des personnes souhaitant se sentir mieux dans leur peau. L'émission, des Français possiblement sous Xanax souhaitent ne plus l'être. Leur point commun, un cheveu relativement graisseux, un pocho couleur indéterminée et des crocs. Puis Christina arrive. Elle brûle le poncho, donne une lettre de l'alphabet au candidat, lui fait faire un shampoing triple action et lui dit qu'il ou elle est magnifique. L'histoire se termine sur un avant-après absolument saisissant, tout le monde est heureux, clap de fin, l'histoire est belle. Le programme est un succès. Elle devient une figure incontournable de la chaîne et très vite, l'une des animatrices préférées des Français. Celle qui nous explique tout le vocabulaire secret du monde de la mode.
Votre thème est branché en pull. Branché, ça veut dire à la mode.
Ah bon? Moi, je savais pas que brancher, ça voulait dire à la mode. Je pensais que c'était qu'on pouvait se brancher avec des pulls dans les prises électriques.
Brancher en pull.
Brancher en pull.
C'est un thème. C'est un thème.
Oui, surtout que c'est très branché de porter des pulls, surtout les cols roulés en ce moment.
Exactement. Monsieur le maire nous l'a bien dit. Christina est devenue une référence, un guide, un phare dans nos vies textiles désordonnées. Un dernier conseil pour le commun des mortels comme nous, Christina.
La doudoune à fond la caisse. Donc ça, c'est des petites astuces pour avoir chaud en hiver, hein, quand même.
Eh oui, personne ne s'en doutait, mais une doudoune, c'est une bonne astuce pour avoir chaud en hiver.
C'est une astuce. Et parce que à fond la caisse, ça pourrait dire au fond de la caisse. C'est rangé là. C'est quoi.
En tout cas, merci pour ce conseil, Christina. Je transmets à qui de droit. Un dernier message avant de partir pour Stéphane.
Je suis époustouflée avec autant de beauté.
À bientôt pour de nouveaux conseils.
Je suis sûr que ça s'adressait à moi. Mais merci quand même, cher Jean-Luc, de faire passer les messages.
Historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos reines du shopping pour retrouver deux passionnés de mode ou de chemises wrinkle-free pour le premier. David, vous nous racontez non pas les origines de la chemise qui ne se repasse pas, mais de la console de jeu.
Oui, la console de jeu auquel on a peut-être, non, pour certains jouets, peut-être pas pour d'autres.
Ah, très bien, mais vous allez nous raconter ça. Avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle donc mode avec vous. En plus, ça tombe bien, c'est le thème du jour, hein, Ivan Jacob. Et on remonte à la belle époque, Ivan, pour découvrir que la mode, qui était à la plume, a déplumé les oiseaux du monde entier.
Elle s'appelait Martha, elle avait 25 ans, elle est morte le 1er septembre 1914, au zoo de Cincinnati dans l'Ohio. Qui était Martha, la dernière tourte voyageuse de l'histoire de l'humanité? Alors la tourte voyageuse, ce n'est pas une quiche à l'ananas, c'est une sorte de pigeon voyageur. Et c'était, figurez-vous, l'espèce la plus importante au monde au 19e siècle. On estime qu'il y en avait entre 3 et 5 milliards. Et tout à coup, en à peine 20 ans, patatras, plus aucune tourte voyageuse. Alors, comment expliquer un tel carnage? Eh bien, la tourte, apparemment, c'était bon et assez facile à attraper. Donc, les Américains en ont mangé des tonnes. Mais la tourte, c'était aussi jolie. Ça avait comme ça une petite tête dans des tons bleus, une poitrine rouge-orangée et des ailes bien blanches. Et ça allait très bien sur un chapeau.
Ah bon?
Mais oui. Parce qu'à partir des années 1870, il y a une véritable folie du chapeau à plumes. C'est la grosse tendance de la belle époque dans les grandes villes américaines et en Europe. Et ces chapeaux, ils sont de différentes formes. Certains utilisent seulement les plumes de l'oiseau en petites touffes flamboyantes comme ça. D'autres utilisent carrément l'oiseau en entier avec la tête et tout.
On se demande si ça tient bien quand même un pigeon entier sur le crâne comme ça. C'est...
Vous bonne question. En fait, il y a deux options. Soit on attache l'oiseau sur le côté du chapeau avec des fils de fer, et on peut même utiliser des petits systèmes de ressorts pour lui faire battre des ailes artificiellement comme s'il n'était pas décédé. Parfois, on l'entoure même de feuilles et de mousse pour qu'il ait l'air non seulement de ne pas être décédé, mais en plus de s'ébrouer dans la nature avec bonheur. Et la deuxième option, c'est de modeler le corps de l'oiseau pour qu'il prenne directement la forme d'un chapeau, et on le pose sur sa tête, un peu comme un bonnet, comme ça.
Mais franchement, Ivan, les coiffures à plumes, ça date pas du 19e siècle. Il y en a toujours eu dans l'histoire.
Mais vous avez raison, Stéphane. La plume est à la mode depuis longtemps. Louis XIV en faisait même venir de Madagascar. Marie-Antoinette adorait se coller des plumes d'aigrette dans le pouf. Mais le problème, c'est que la mode de la belle époque intervient dans un contexte d'industrialisation et que donc la chasse, comme le reste, devient massive. En 1900, aux États-Unis, l'industrie chapelière emploie plus de 80 000 personnes. Et il y a autre chose qui est produit massivement à l'époque, ce sont les magazines de mode qui diffusent donc largement cette tendance au plus grand nombre. En anglais, on appelle ça le « plume boom ». Toutes les femmes veulent leur chapeau à plumes. En 1886, un ornithologue qui s'appelle Frank Chapman écrit une lettre désespérée au magazine Forest and Stream. Il dit avoir croisé en seulement deux promenades à Manhattan 700 chapeaux, dont 543 décorés de plumes d'oiseaux. Ça fait les trois quarts des chapeaux avec des oiseaux dessus. Et évidemment, ce qui était une idée déjà un peu moyenne dès le début devient carrément une course absurde à qui aura le plus gros chapeau et surtout à qui aura l'oiseau le plus chatoyant. Les femmes les moins fortunées, elles se tournent vers les plumes de dinde, d'oie, de pigeon, de pintade. Mais les plus riches, elles veulent du volatile exotique. La plume d'autruche d'Afrique du Sud est si recherchée que sa valeur atteint presque celle du diamant. vous rendez compte. Et plus les plumes deviennent rares, évidemment, plus leur prix augmente. Le gramme de plume de l'aigrette neigeuse, par exemple, vaut le double du gramme d'or à cette époque. Et l'autre facteur aggravant, c'est que pour avoir l'oiseau le plus chatoyant, il faut le prendre au moment de sa reproduction, quand il sort son plus beau plumage pour attraper des femelles. Et la chasse excessive laisse donc des milliers de petits oisillons sans parents et sans chance de survie, tuant d'un même coup 2 générations d'oiseaux.
Mais est-ce que véritablement cette mode a menacé des espèces ?
Bah oui, aux États-Unis, on estime qu'il y a eu plus de 5 millions d'oiseaux tués dans les dernières années du 19e siècle. En fait, c'est un tel carnage que la société commence à se mobiliser pour leur défense. À Boston, notamment, qui devient l'épicentre de la lutte pour la défense des oiseaux, il y a une femme de la bonne société qui mobilise l'opinion sur le massacre des oiseaux et elle demande aux femmes d'arrêter de les mettre sur elle. L'affaire de la tourte voyageuse a vraiment marqué les esprits. Elle a prouvé que les hommes peuvent être responsables de l'extinction d'une espèce, c'est quelque chose qu'on avait du mal à croire avant. Et en 1903, le président Roosevelt, qui est un passionné d'oiseaux, intervient. Il crée le premier refuge national de la faune sauvage. Ce ne sera pas suffisant pour sauver les tourtes, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est un premier pas. En 1916, les États-Unis et le Canada signent une convention pour la protection des oiseaux migrateurs. Mais en 1916, la belle époque est finie, la tendance des chapeaux à plumes est passée, et c'est finalement cette folie de la mode qui aura donné naissance aux toutes premières organisations de défense des animaux.
Incroyable, on a appris des choses.
Et plus jamais on verra une tourte alors.
Plus de tourtes non. voyageuses.
Mais on n'a pas conservé leur ADN.
On n'a pas trouvé, il n'y a plus de deux, il n'y a pas un ou deux exemplaires.
C'était Martha, c'était elle, la dernière. Ça me fend le cœur.
Non mais autant il y a des espèces qu'on ne va pas regretter, autant cette espèce, on la regrette.
La tourte voyage, oui, bien sûr. Rien que pour son nom.
Oui. Mes aïeux, quelle époque. Merci, Ivan.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout avec vous, David Cassé-Lopez, puisque vous nous racontez les origines de ce qui a fait votre passion, la console de jeu.
Oui. Stéphane, quand je vous imagine à 15 ans, quelque part à la fin des années 70, je vois une scène dont je ne sais pas si elle a existé. Je vous vois à la sortie du lycée Carnot à Paris, dans le 17e arrondissement, où vous étiez élève. L'adrénaline de la fin de journée, la petite vexation peut-être d'avoir eu que 14 ans latin. On chahute, certains fument, mais pas vous. Et puis, je vois un membre du groupe des populaires de votre classe qui dit « Hey Stéphane, tu viens au bistrot, on va jouer à Pac-Man !» Et vous répondez « Non Michel, je ne peux pas, j'ai du travail. » Et là, vous rentrez chez vous, vous prenez un verre de lait avec des petits lus et vous vous enfermez dans votre chambre pour lire avec une joie presque sensuelle l'histoire des Habsbourg, des Lancastres et des Hohenzollern. Mais aujourd'hui Stéphane, plutôt que de vous suivre vous jusqu'à votre chambre de la Plaine Monceau, on va plutôt suivre Michel qui, lui, a posé son panaché sur le comptoir et qui essaye frénétiquement de faire en sorte qu'une créature en forme de cercle jaune avale des pilules sans se faire tuer par les fantômes. Parce qu'à cette époque-là, les jeux vidéo, c'était ça. On jouait tous comme Michel sur des machines grandes comme des armoires placées dans des endroits publics et dans lesquelles il fallait mettre des pièces. Mais Précisément à cette époque-là, il a commencé à y avoir des façons abordables de transposer ce fun dans le salon ou dans la chambre à coucher. Déjà en 1972, il y avait un monsieur américain qui s'appelait Ralph Baer et qui avait inventé ce qui est considéré comme la première console de jeu de l'histoire qui s'appelait la Magnavox Odyssey. Visuellement, elle ressemblait à une sorte de temple zen japonais futuriste et elle se branchait déjà à la télévision, ce qui était une bonne idée puisque déjà à l'époque, tout le monde avait des télévisions. Alors, faut pas s'imaginer que c'était un truc super avancé, hein. Tout ce qu'elle faisait, la Magnavox Odyssey, c'était d'allumer un ou deux carrés sur l'écran de la télévision. Et les différents jeux, ils se faisaient en collant sur l'écran de votre télé des films plastiques transparents avec le décor du jeu. Et donc, les points lumineux se mettaient en contexte dans ce décor et c'est ça qui faisait les jeux. Ça a été un gros échec commercial, sans doute parce que c'était pas assez bien. Mais au même moment sont nés justement les jeux d'arcade, ceux que vous boudiez Stéphane, mais que Michel adorait. Et c'est dans le sillage de leur succès qu'est née la première console célèbre du monde, qui s'appelait l'Atari 2600. En 1979, ça a été le jouet le plus vendu à Noël aux États-Unis. Et ça a tellement cartonné que l'année suivante, Atari est devenue l'entreprise américaine ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire du monde. À l'époque, les gens qui travaillaient dans les jeux vidéo, ils étaient déjà installés à la Silicon Valley et c'était des gens cool, jeunes, brillants, dynamiques, qui faisaient la fête et qui fumaient le shit. Ils travaillaient beaucoup, vite et parfois aussi pas très bien. Parce que vite, les jeux, ça arrivait qu'ils soient mal travaillés, rudimentaires, répétitifs. Et cette nonchalance, elle a fini par avoir des conséquences assez massives à cause d'une histoire assez dingue que je ne sais pas si vous connaissez. En 1982, Atari, ils ont négocié les droits d'adapter en jeu vidéo le film E.T. Sauf que les négociations, elles ont duré tellement longtemps qu'il restait plus que 5 semaines pour créer le jeu E.T. si on voulait le sortir avant Noël. Alors que normalement, un jeu à l'époque, ça prenait 6 à 8 mois. Et là, le PDG d'Atari, il a appelé un de ses meilleurs ingénieurs qui s'appelait Howard Scott Warshaw, 24 ans, super brillant, qui avait déjà développé plusieurs jeux à succès. Et Howard, confiant, il a dit « Ok, pas de problème, je te le développe ton jeu en 5 semaines. » Et le jeu est sorti, et les gens l'ont acheté pour Noël, et ils l'ont mis dans leur console Atari, et là ils se sont rendus compte que c'était une grosse bouse de l'enfer. En voulant aller trop vite, Howard, il a fait des niveaux dans lesquels on se perdait, c'était pas fun. Résultat, Atari avait fabriqué 5 millions de cartouches E.T. et ils en ont vendu que 1 million et demi. 3 millions et demi de cartouches non vendues. Atari s'est jamais relevé de cet échec. Et la chute d'Atari explique, entre autres facteurs, le crash général de l'industrie des consoles dans son ensemble au début des années 80. C'est pas le seul facteur, mais c'est quand même un des facteurs. Le marché américain des consoles de jeux, il représentait 3 milliards de dollars en 1983, plus que 100 millions en 1985, divisé par 30. Alors depuis, le marché, il est rené de ses cendres. Hein. Bon, il a repris du poil de la bête. Et pendant des années, il y a eu une légende qui disait que les cartouches invendues du jeu E.T., elles avaient été enterrées dans le désert tellement Atari avait honte. Et vous savez quoi ? Eh ben, c'était vrai.
Non.
En 2014, il y a des historiens du jeu vidéo qui ont réussi à localiser l'endroit où elles étaient enterrées, dans le désert du Nouveau-Mexique, et ils ont déterré les cartouches. Quant à vous, Stéphane, moi, je suis content que vous n'ayez pas suivi Michel au bistrot. On a du mal à imaginer un Stéphane Bern spécialiste de Pac-Man.
Ouais. Je n'ai aucun regret.
Voilà.
Je suis passé peut-être à côté de quelque chose pour ma culture générale, mais personnellement, je n'ai aucun regret. Mais j'ai beaucoup aimé votre histoire. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont brisé la glace. Le médecin et scientifique Jean-Baptiste Charcot, qui a passé sa vie à explorer les mers des régions polaires. Puis le capitaine du Titanic, Edward Smith, qui a brisé la glace. Pas que la glace, hélas. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une star d'Hollywood qui a brisé la glace, elle aussi, mais avec un pic.
Oui, Sharon Stone est le film qui a fait d'elle une star, Basic Instinct. Dresse son portrait demain en gardant les jambes croisées.
Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.